Oui, alors la médiathèque François Mitterrand donc, se trouve à Tournord, à côté de la tour du Beffroi. Elle fait partie du réseau des bibliothèques de la ville de Tours. Donc c'est la même inscription. Quand on fréquente la bibliothèque centrale, on peut aussi aller à François Mitterrand. Il y a une autre médiathèque qui se trouve dans le quartier des Fontaines, pas très loin des studios de Radio Campus. Voilà, et puis ensuite d'autres bibliothèques. En tout, il y en a 7 sur le réseau, plus une desserte de bibliobus. Voilà, donc 3 médiathèques, ça veut dire 3 collections cinéma. Donc moi, je suis responsable de la collection cinéma à la médiathèque François Mitterrand, donc qui consiste en une collection de DVD que le public peut emprunter chez lui. Donc il y a de tout en DVD, à la fois des films, bien sûr, pour adultes, pour enfants, y compris des séries, dont quelques-unes de ces séries qui ont été réalisées par les studios DIC.
Justement, j'allais vous demander, être responsable d'une section cinéma dans une médiathèque, c'est quoi ? C'est s'occuper du rayon cinéma ou c'est organiser des événements aussi ?
Alors c'est les deux. C'est les deux. La base, c'est d'abord donc d'acquérir le fonds pour qu'il puisse être prêté au public. Donc ça suppose, en tout cas en cinéma, pas mal de culture générale, parce que certes il y a la partie cinéma pur, mais il y a aussi donc comme je disais le jeune public, également le cinéma documentaire. Donc avoir la curiosité de s'intéresser un peu à tous les sujets pour pouvoir proposer des films, des animations autour de ça. Donc là je parlais du documentaire à l'instant, ce sera d'ailleurs à partir du mois prochain. Le mois du film documentaire, on traitera du handicap. Et là, pour l'instant, on est en plein dans la fête du cinéma d'animation qui est très exactement le 28 octobre. Il faut savoir que le 28 octobre 1892, un certain Émile Reynaud, donc 3 ans avant l'invention du cinéma, a réussi à projeter des images lumineuses, donc des dessins animés. Voilà. Et donc tous les ans, l'AFCA, l'Association française du cinéma, célèbre cet événement au travers de tout un tas d'animations, de partenaires. Et nous, donc, en bibliothèque, dans les bibliothèques de Tours, régulièrement, on essaye de proposer quelque chose sur ce sujet.
Est-ce que l'une des missions de la médiathèque, c'est de faire découvrir des œuvres culturelles qui sont moins exposées ?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai qu'avec le choix de DIC cette année, on est moins dans quelque chose de pas connu, puisque ce sont effectivement des séries phares qui ont très bien marché au niveau du public. Je pense que presque tout le monde, en tout cas les trentenaires, quarantenaires, connaissent Les Mystérieuses Cités d'Or, au moins. Série d'ailleurs qui continue, puisque à sa déclinaison, une autre saison a été faite récemment. Donc les plus jeunes aussi ont leur Mystérieuses Cités d'Or, même si c'est plus Studio DIC. Mais il n'empêche que... ce qui est peu connu sur ce studio, c'est qu'il est né à Tours, donc moi c'était surtout ça que je voulais valoriser, donc ça on en parlera sans doute après. Et puis oui, régulièrement sur la fête du cinéma d'animation, c'est vrai que j'essaye quand même aussi de montrer d'autres choses, notamment des séances de courts-métrages, des courts-métrages d'auteurs qui ont peu ou pas de diffusion. Alors ça marche pas forcément très bien au niveau public, c'est des séances où il y a peu de personnes qui se déplacent, mais c'est toujours pour nous l'occasion de valoriser. Mais on a des DVD qui... présente ces films.
Par rapport au prêt, j'imagine que vous avez un rôle de conseil.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On fait des choix d'acquisition qui reflètent un peu aussi nos goûts en matière de cinéma. Moi, c'est vrai que j'adore le cinéma d'animation dans toute sa dimension. Donc, il y a beaucoup de films d'animation, particulièrement à la médiathèque François Mitterrand. On trouvera peut-être un petit peu moins dans les collections des autres bibliothèques où chacun a un peu ses dadas, sa spécialité. Et puis, oui, sur place, bien évidemment, on est là pour accompagner le public dans ses recherches, proposer des choses qui ne sont pas connues si on voit les gens qui hésitent. Voilà.
Et quel regard vous portez sur l'évolution de l'accès à la culture ? Et pour vous, c'est le cinéma, mais...
Oula, c'est vaste.
Ouais, mais en fait, je me suis posé la question si pour vous, par exemple, quelque chose comme Netflix, c'était une bonne chose ou pas, en fait ?
Alors, moi, à titre personnel, je suis abonnée Netflix. Parce que oui, je trouve ça bien. Je trouve que ça développe les moyens d'accès au cinéma. C'est en plus une offre payante, certes, mais quand même peu chère. Bon, la plupart du temps, on va sur Netflix d'abord pour les séries télévisées, parce que c'est vrai que c'est un réservoir à séries. Nous, par exemple, en médiathèque, on a du mal à suivre sur le plan des séries. Les DVD, on les achète cher, parce qu'on paye des droits dessus qui nous permettent ensuite de les prêter. Et les budgets sont pas suffisants pour qu'on puisse avoir une collection de séries susceptibles de concurrencer et la télévision et l'offre sur Internet. Mmh. Y compris Netflix. Bon, il n'empêche qu'on a un public qui vient régulièrement emprunter ces séries, qui réserve la suite, enfin voilà, qui s'y intéresse.
Et du coup, est-ce que ça...
On est complémentaires.
Est-ce que ce contexte-là joue sur vos choix, justement? Ça veut dire que vous allez peut-être plutôt proposer des choses qui sont dans les archives, ou oubliées, ou qu'on a...
On peut, et en même temps, si on n'a que ça, ça ne va pas forcément contribuer à faire venir le public. C'est vrai qu'on est de toute façon dans une transition par rapport à un support physique, notamment. Nous, nos collections en bibliothèque, que ce soit le livre, que ce soit le DVD, et je crois que c'est encore plus flagrant pour la musique, le support CD, on a de toute façon une perte régulière de nos adhérents emprunteurs. C'est pas pour ça qu'on a une perte de fréquentation. C'est-à-dire que les gens viennent à la bibliothèque pour autre chose. On a des ressources numériques, ça se développe. Là, les premières tablettes viennent d'arriver à la bibliothèque centrale. Le public peut venir simplement pour consulter sur tablette numérique des outils, ça peut être des dictionnaires, il y a des jeux aussi, enfin, il y a tout.
Mais est-ce qu'on peut imaginer un jour une médiathèque en ligne?
Et la médiathèque en ligne, oui, tout à fait. Alors, on a aussi un service qui s'appelle Nomad, qui est accessible depuis le catalogue des bibliothèques de la ville, et qui permet depuis chez soi de profiter de certaines ressources, livres numériques, films, musique.
Et du coup, pour l'organisation des événements comme là l'exposition DIC, vous avez carte blanche, comment ça se passe pour choisir déjà le thème de l'exposition ou de l'événement?
Oui, moi j'ai cette chance, j'ai carte blanche. Bon, après c'est un peu en fonction des envies. C'est vrai que moi ça fait près de 20 ans maintenant que je suis non, un petit peu moins, mais bon, ça fait un moment que je suis dans les bibliothèques de Tours et je commence à avoir mon réseau et voilà, et puis donc la confiance aussi de mes supérieurs dans les projets que je propose. Là, c'est vrai, DIC, en fait, ça fait 2 ans que je travaille dessus, puisque ça a commencé par une rencontre avec les auteurs d'un livre qui s'appelle Les séries de notre enfance. Donc Marouane El-Ouesti et Nordine Zemrak, rencontrés à Japan Tour Festival. Voilà, et donc il y avait eu déjà une...
Qui sont tourangeaux aussi?
Alors, ils sont pas tourangeaux, ils sont de Lille. En revanche, Bernard Derriès, les gens Chalopin, alors il n'est pas tourangeau, mais enfin, il est arrivé à Tours. L'aventure DIC a commencé à Tours. Donc, c'était pour ça que la Japan Tour Festival avait voulu faire déjà quelque chose. Donc, il y avait une exposition et des conférences sur ces studios. Alors, ça, c'est resté un petit peu confidentiel parce que c'était, du coup, pour le public de la Japan Tour, qui n'est d'ailleurs pas que tourangeau, hein, les gens viennent d'un peu partout. Et moi, du coup, je m'étais dit, bah, ça serait bien qu'on fasse quelque chose de plus accessible. Nos bibliothèques sont gratuites, on peut y rentrer voilà, facilement et donc interpeller les gens sur cette histoire, quoi.
Donc avant de parler plus en détail des studios DIC en eux-mêmes, on va peut-être faire une première pause musicale. Donc ça va être le thème de l'inspecteur Gadget. Je pense que
Chouette.
C'est en adéquation avec le thème.
Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là, je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi,
moi je vous arrête.
Je vous arrête là.
Go, go.
Gadget à main.
Dash.
Gadget au chapeau.
Hello.
Gadget au doigt.
Hola.
Élastique au gadget. Les bandits sont là.
Inspecteur Gadget.
Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe.
Fais gaffe.
Qui marche ou marche pas.
Go, go.
Gadget à main.
Yahoo.
Gadget au chapeau.
Go, go.
Gadget au poing.
Qui c'est?
Élastique au gadget. Et puis pas d'attaque.
Gadget.
Voilà le chef qui est là. Salut chef, c'est moi. Et là qui va là,
Inspecteur Gadget.
Et là ça va pas. Oh là je suis là,
Inspecteur Gadget.
Oh là oh la loi.
Go go.
Gadget à main.
Yahoo.
Gadget au chapeau.
Go go.
Gadget au poing.
Qui c'est?
Élastique au gadget. Et puis patatrac.
Inspecteur Gadget.
V'là le chef qui est là. Salut chef, c'est moi.
Inspecteur Gadget.
Ça n'en finit pas. Gadget, et là qui va là,
Inspecteur Gadget,
et là ça va pas. Oh là, je suis là,
Inspecteur Gadget.
Oh là, oh la loi, c'est moi que voilà,
Inspecteur Gadget.
Ah, ça va être la joie. Au nom de la loi,
Inspecteur Gadget,
je vous arrête là.
On est de retour dans Sortez et on vient d'écouter le thème de l'inspecteur Gadget. Alors nous sommes toujours en compagnie de Noël Glavoki, responsable de la section Glovaki, autant pour moi, responsable de la section cinéma de la médiathèque François Mitterrand à Tours. Et on parle de l'exposition des studios d'animation DIC, Diffusion, Information, Communication. Avant de s'attarder sur l'histoire de ces fameux studios, il faut savoir qu'on en a un peu parlé, que cette exposition est organisée dans le cadre de la fête du cinéma d'animation. On peut en savoir un peu plus.
Alors, sur la fête du cinéma d'animation ?
Oui.
Oui. Donc, la fête du cinéma d'animation, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une manifestation initiée par l'Association française du cinéma d'animation qui regroupe des professionnels travaillant dans le secteur, donc des réalisateurs, mais aussi des distributeurs, des producteurs. Voilà, une association basée à Paris et donc qui a pour vocation de valoriser le cinéma d'animation sur l'ensemble du territoire français. Donc, cette fête est toujours un événement. Donc, souvent, ce sont des cinémas qui participent, mais aussi de plus en plus beaucoup de bibliothèques, puisque c'est vrai que dans nos collections, on a beaucoup de DVD montrant du cinéma d'animation sous toutes ses formes. Donc il y a la série, et puis il y a aussi le long métrage, le court métrage, énormément. Il y a une grosse partie de la production, notamment en France, est constituée de courts métrages qu'on connaît peu. Donc là, cette année, c'est pas ce qu'on valorise, plutôt la série télé. Mais voilà, à d'autres époques, ça m'est arrivé de faire.
Par exemple, les années précédentes.
J'ai pas réfléchi à la question, du coup ça me revient pas immédiatement en tête.
Non, c'est pas grave, mais
ouais.
Je sais pas, c'était plutôt de la création locale également, ou là c'est plus que c'était l'occasion.
Non, je me souviens avoir diffusé des compilations de plusieurs courts métrages. Là, depuis ça faisait 2-3 ans que j'avais que je m'étais rattachée à un événement qui se déroule à Fontevraud. C'est des rencontres professionnelles. D'ailleurs, j'y étais encore la semaine. Enfin, il y a une dizaine de jours, qui donc autour de l'écriture du cinéma d'animation. Et quand ces rencontres avaient démarré, les responsables nous avaient demandé, dans différents lieux, donc pas très loin de l'abbaye de Fontevraud, de faire de projeter des films, d'organiser des rencontres, notamment avec des jeunes créateurs qui sont invités en résidence à l'abbaye pour travailler sur des projets. Donc ça avait tourné, j'ai fait une année, c'était plutôt le cinéma russe, le cinéma d'animation russe. L'année précédente, c'était le cinéma d'animation chinois. Donc à chaque fois, un jeune auteur invité. Et puis aussi, retour sur une histoire. Les Russes, par exemple, c'était Gary Bardine, qui est un des grands réalisateurs russes contemporains qu'on connaît très peu en France, mais voilà, qui était venu alors à la Cinémathèque, avec la Cinémathèque de Tours. Et puis, moi, j'avais projeté aussi un de ses films. Voilà.
Mais du coup, cette année, c'est l'occasion de découvrir l'exposition DIC. Et comme vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, les studios DIC sont nés à Tours.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, à la fin des années 60, un jeune homme, très jeune homme, il avait à peine plus de 15 ans, Jean Chalopin, débarque à Tours avec l'envie de travailler dans la communication. Donc, il commence d'abord par faire de la distribution de prospectus. Il monte une première agence de distribution, puis de création de publicité, qui, de fil en aiguille, et notamment grâce à l'arrivée d'un autre jeune homme, Bernard Derriès, va s'orienter vers la réalisation de films publicitaires animés, et puis ensuite de séries. Voilà. Donc ça fait et tout ça s'est passé à Tours. Alors dans les rues qu'on peut citer. Alors j'ai le bouquin sous les yeux, je vais le prendre en pense-bête hein, parce que c'est vrai que je me souviens plus. Mais voilà, locaux de la rue Jean Fouquet à Tours, locaux de la rue Émile Zola. Ils ont déménagé à plusieurs reprises. La première, c'était rue Chalmel. Voilà, on voit dans le livre, alors qu'on peut consulter d'ailleurs à la médiathèque, hein, nous l'avons bien entendu acheté, on voit l'évolution de ce studio et donc les premiers dessins animés publicitaires. Donc là, sous les yeux, j'ai une publicité pour les Cocottes Minute Seb. De la publicité sont passés à des petits films éducatifs. La SNCF notamment leur avait commandé des films pour prévenir des dangers sur les passages à niveau. Donc il y a une série qui s'appelle Monsieur Paniveau qui passe toujours à chaque fois Monsieur Paniveau. Donc ça dure quelques minutes. Ces petits dessins animés, ils s'approchent du passage à niveau, distraits évidemment, ils se font avoir. Il y a également la EDF qui avait commandé cette fois une série sur l'énergie. La série s'appelle Les Aventures de l'énergie. C'est une des premières séries scientifiques. Après, il y en aura d'autres. Il était une fois l'homme étant la plus célèbre. Voilà. Bon, il était une fois l'homme, c'est pas les studios Dick. C'est un autre studio, la Procidis. En revanche, Jean Barbeau, l'un de ses créateurs, a travaillé aussi pour les studios Dick. Il sera là d'ailleurs chez nous la semaine prochaine pour en parler.
On va en toucher quelques mots juste après.
Et du coup, l'animation à la française, c'est quelque chose qui est assez réputé, mais c'est moins connu que Tour a participé à cette renommée.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, les premières séries donc, se sont développées à Tours, mais la première grosse série qui a été Ulysse 31, au tout début des années 80, hein, la première diffusion c'est 1981 sur France 3. Cette première série a nécessité des déplacements tellement importants, puisque ça a été une collaboration franco-japonaise, qu'il a fallu transférer des studios à Paris pour que ce soit plus facile de travailler avec le Japon.
Ouais, d'ailleurs, ça a été créé en réaction justement à Goldorak, qui avait un succès en France, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que les tout débuts, notamment du Club Dorothée, alors non, à l'époque, c'était Récréa 2, c'était déjà Dorothée. Alors là, j'essaye de me souvenir ma propre enfance télévisuelle. moi, je suis née en 74, donc effectivement, la télévision, alors on l'a eu assez tard, ceci dit, dans ma famille, mais j'allais regarder Récréa 2 chez mes voisins, et puis quand on a eu la télé, enfin, sur France 3, donc est arrivé Ulysse 31. Ulysse, donc, c'était une série de science-fiction, mais avec une vocation pédagogique. C'est vrai que la directrice des programmes de l'époque sur France 3 avait commandé à Jean Chalopin cette série en lui disant bien qu'il fallait qu'il y ait une dimension intellectuelle, enfin que les enfants puissent aussi apprendre des choses. Donc c'est la mythologie qui a été retenue pour que le jeune public ne sorte pas de la série complètement idiot. Or maintenant, bon, dire qu'on sortait de Goldorak complètement idiot, je n'irais pas jusque là. Moi-même, j'aimais beaucoup Goldorak aussi. Voilà, parfois les adultes ils s'imaginent que le goût des enfants est d'une certaine manière, alors que ce n'est pas forcément le cas. On peut s'intéresser à tout.
En tout cas, il y a eu une époque faste, puisqu'il y avait plus de 100 personnes à travailler dans ces studios à
Tours.
Oui,
au moment de la réalisation du Ulysse 31, oui, tout à fait. Ça a généré une augmentation des studios, donc jusqu'à une centaine de personnes. Mais c'est là que ça commençait à être déjà compliqué en termes d'espace. Bon, tout ça, évidemment, les personnes qui ont travaillé le raconteront mieux que moi. Moi, je tiens mes informations du livre que j'ai lu. Oui, notamment quand la deuxième série a été lancée, donc Les Mystérieuses Cités d'Or, là, il a fallu vraiment déménager. Donc, quelques personnes sont parties travailler à Paris, et puis d'autres sont restées, ont préféré... Resté à Tours, Derriès a suivi l'aventure Dick pendant longtemps, hein, puisque on le retrouve sur Les Mystérieuses Cités d'Or en tant que réalisateur principal avec un co-réalisateur japonais, mais également sur l'inspecteur Gadget, non, c'était Bruno Bianchi. En revanche, les mini-pousses, c'est lui. Qu'est-ce qui me vient en tête ? Je sais plus, mais enfin bref, il se retrouve un petit peu partout, pas forcément réalisateur principal, mais en tout cas, toujours dans l'aventure avec donc Jean Chalopin, surtout lui côté production et auteur. Il travaillait sur les scénarios. Le scénario d'Ulysse 31, c'est lui avec Nina Vollmark, sur les mystérieuses cités d'or également. Il a participé à l'écriture. Donc voilà, il y a...
Non, mais c'est vrai que c'est une histoire. L'histoire de ces studios, en fait, est beaucoup moins connue que les œuvres qui en sont sorties, en fait.
Bah, en fait, je pense que de toute façon, dans la grande majorité des cas, on connaît les séries, mais on ne connaît pas comment elles sont fabriquées. Alors, c'est aussi l'intérêt de l'exposition qu'on présente, c'est qu'on présente des cellulos. C'est-à-dire le petit dessin de base de fabrication d'un dessin animé. Le mot veut bien dire ce qu'il est. Il s'agit de dessins que l'on fait bouger. Alors comment on fait ? Ben on aligne des cellulos les uns après les autres et on les filme image par image pour que ça crée le mouvement. Et à chaque dessin, il y a une modification donc d'un personnage. Alors pourquoi ce cellulo justement ? Ben c'est une feuille plastique qui est facile à positionner et qui permet surtout d'être multipliée. On peut mettre plusieurs cellulos les uns sur les autres et ne changer qu'un tout petit élément d'un visage, d'un vêtement qui bouge, d'une feuille dans un arbre, voilà. Et il suffit de repositionner la feuille de plastique pour avoir une autre image, etc. Alors évidemment, là, sans avoir l'aspect visuel, c'est difficile de se représenter ce que ça donne. Mais en tout cas, les quelques dessins qu'on a, là, on en a une trentaine. C'est une infime, toute petite partie de l'énorme travail de dessin qui est réalisé, puisque pour faire un épisode de 26 minutes, il faut 9000 à 15000 dessins, selon la vitesse d'exécution.
Avant d'évoquer plus en détail l'exposition en elle-même, du coup, on a beaucoup parlé d'Ulysse 31. Du coup, je pense que...
Oui, parce que c'est ma série préférée.
Ah bah ça tombe bien, on va faire une deuxième pause musicale, et ça va donc être le générique d'Ulysse 31.
Oh.
Et voilà, c'était le générique d'Ulysse 31. Il y a quelques minutes, on parlait avec Noël des cellulos. Et qu'est-ce qu'on pourra trouver d'autre dans cette exposition, du coup ?
Je vais revenir un petit peu sur les cellulos, parce qu'on en parlait entre nous, mais j'ai pas expliqué aux auditeurs ce que c'était. Donc le cellulo, c'est la base du dessin animé, puisque c'est le dessin qui sert l'animation. Donc ce qu'on va voir, il y a une feuille de papier et puis par dessus donc des feuilles plastiques. La feuille de papier en général, il y a le décor dessus. Celle-là, elle peut servir sur de nombreuses scènes. En revanche, ce qui va changer à chaque image et à chaque bout d'image, puisque il faut à peu près 16 dessins pour faire une seconde de film, ça va être cette fameuse feuille de plastique, le cellulo, que l'on va positionner et modifier pour créer le mouvement. Donc le regard de l'animateur, il va servir à ça. C'est comment on décompose un mouvement et comment est-ce qu'on fait ces toutes petites modifications, bouger un œil, une mèche de cheveux, la lèvre pour faire parler les gens, faire parler les personnages, le vent dans les feuilles des arbres. Voilà, tout ça c'est décliné en dessin, mais à chaque fois c'est de l'image fixe qu'on va filmer, donc image par image, et c'est notre œil, quand les images vont être mises les unes à la suite des autres, qui va reconstituer ce mouvement et en avoir l'illusion. C'est un principe de cinéma, la pellicule de cinéma, c'est pas autre chose, c'est une succession d'images également.
Du coup, on ne l'a pas précisé, mais cette exposition, elle est gratuite ?
Oui, bien sûr. Oui, elle est gratuite, puisqu'en fait, de toute façon, entrer dans une bibliothèque, c'est gratuit. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun droit à acquitter. Donc, elle est composée d'une trentaine de cellulos, donc, qui appartiennent à deux dingues, quand même, ils sont un peu dingues, de cinéma d'animation, et en particulier de ces séries. Ils ont écrit un livre, donc il s'appelle Marouane El-Ouasti et Nordine Zemrak. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Les séries notre enfance, qu'ils ont édité à compte d'auteur. Ils ont créé leur propre maison d'édition, les éditions Pollux, pour le faire, et qui est très richement illustré de leur collection personnelle de cellulos. D'autres éléments aussi qu'ils ont pu importer, donc il y a les cellulos, il y a aussi tous les objets dérivés des séries. Donc il y a par exemple, quand j'ai rencontré Nordine, il est arrivé avec une grosse valise remplie de tous les objets qu'il a accumulés depuis sa plus tendre enfance autour des cités d'or. Donc ça va de la petite cuillère.
Donc c'est les produits dérivés.
Alors il y en a d'ailleurs beaucoup qui viennent du Japon. En France finalement on en a eu assez peu, mais alors au Japon c'est énorme quoi. C'est vrai que les Japonais ont ce goût pour les petits accessoires à l'effigie de leur personnage préféré. Peut-être en France on a un petit peu moins.
Est-ce que lors de la préparation de l'exposition, donc vous avez rencontré ces deux auteurs férus de ces studios donc Tourangeau, mais est-ce qu'à un moment s'est posé la question de peut-être travailler avec les auteurs eux-mêmes des studios ?
Oui, bien sûr. En fait, Bernard Derriès en particulier habite toujours à Tours, donc il était facilement contactable. Moi-même, j'en avais discuté avec lui. Il était aussi à la Japan Tour, donc il était tout à fait prêt à revenir parler de l'histoire des studios dans la médiathèque. Il n'y avait pas de souci. Donc, on a donc organisé cette conférence donc, qui se tiendra vendredi prochain à 19h à la médiathèque. Donc, il y aura lui, Bernard. Il y aura donc Marouane et Nordine. Et puis donc Jean Barbeau et son épouse Afroula Adjianakis qui a également collaboré au studio. Alors aujourd'hui Jean et Afroula, Jean fait de la bande dessinée plutôt, de temps en temps il est appelé à travailler sur des dessins animés, donc il n'a pas travaillé que pour la DIC, il a aussi fait d'autres séries comme Il était une fois l'homme, et puis aujourd'hui il fait de la bande dessinée mais il habite aussi toujours en Touraine. Afroula est plutôt coloriste je crois.
Donc dans l'expo, on va retrouver des objets qui appartiennent donc aux auteurs, mais aussi aux studios ?
Alors, normalement, les studios, en tout cas, dans la mesure où ils n'existent plus en France, hein, il n'y a plus de studios DIC en France, ils ont été rachetés un temps par Disney, et puis ensuite ils sont passés... ils sont passés au Canada. Alors c'est surtout en fait des droits attachés à ces séries qui ont été rachetés par d'autres studios. Maintenant, voilà, il n'y a plus de production DIC. C'est une autre société, je crois, qui s'appelle TMS, qui se trouve au Canada, voilà, qui continue à produire des séries et qui détient les droits de ces séries-là. Donc les cellulos, en fait, à partir du moment où la série est faite, ben ils sont jetés. Donc certains artistes les gardent, certains studios les gardent. On en trouve sur Internet. Hein. Il y a des ventes régulières de cellulos. Donc c'est l'objet d'une collection aussi.
Et est-ce que par exemple Bernard Derriès a participé à l'exposition en apportant, je sais pas, des photos d'époque de l'entreprise?
Non. Par contre, comme il en avait fourni beaucoup à Marouin et Nordine, peut-être que certains des cellulos lui ont... proviennent de Bernard Derriès, ça je saurais pas vous dire. Et en revanche, au niveau des illustrations, bah notamment pendant la conférence, on a prévu de montrer tout un tas de photos d'époque. Là, c'est effectivement Bernard et ses collaborateurs qui les leur ont fourni.
D'accord, ouais. En fait, ils avaient déjà fait un travail.
Voilà, ils avaient de toute façon déjà fait ce travail de collecte d'informations pour la préparation de leur livre.
Ok, donc l'exposition, évidemment, elle est liée au livre.
Oui, tout à fait.
Et avant la conférence, il y a un autre événement qui va se dérouler. Il y a une projection le jeudi 28 à 15h30.
Voilà, c'est ça, la veille. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants, parce qu'on voulait que les parents puissent emmener leurs enfants voir ces séries et leur dire « Ah ben moi, quand j'étais petit, je regardais ça ». Voilà, donc on a sélectionné quelques séries phares de la DIC et on passera les épisodes pilotes, c'est-à-dire les numéros 1. Alors, j'arrête tout de suite les aficionados du LIS 31. Il n'y aura pas l'épisode pilote maudit, celui qui a été réalisé par René Borg et qui n'a jamais été retenu, avec un Ulis complètement différent de celui qu'on connaît. Bon, malheureusement, cet épisode est introuvable et donc, voilà, on ne pourra pas l'y fuser. Il y a quelques images qui existent sur Internet, on en parlera peut-être aussi pendant la conférence.
Du coup, c'est l'occasion pour la nouvelle génération de connaître ces classiques du dessin animé.
Oui. Oui, tout à fait. Voilà, c'était l'objet de cette séance-là. C'était
l'exposition, une séance familiale. L'exposition, elle a déjà démarré, donc j'imagine que vous avez déjà vu un public découvrir l'exposition.
Oui, on a plus d'adultes que d'enfants, d'ailleurs.
Et est-ce qu'on a des adultes qui font voir à leurs enfants?
Oui.
Quelle génération?
C'est ça, c'est les 30-40-naires, quoi. Ceux qui sont nés dans les années 70-80 et qu'on grandit avec ces séries. Puisque là, la fin de l'aventure dit alors française, c'est 86. Ensuite, il y a un certain nombre de séries qui ont été produites aux États-Unis, toujours sous l'appellation DIC, quand même. Ce qui fait que. Oui, puis bon, elles ont été rediffusées aussi. Donc, je crois que jusque dans les années 90, les jeunes ont été marqués par ces séries-là.
Ah, oui, de toute façon, par le biais des rediffusions, on connaît encore l'inspecteur Gadget.
Oui, voilà, l'inspecteur Gadget. Il y a quoi après des choses qui sont peut-être moins connues parce que bon, ça a bénéficié justement de produits dérivés. Je pense au Bisounours, par exemple. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Bon, c'est vrai que le monde des Bisounours, souvent, c'est une expression qui est courante. Mais voilà, les Bisounours, au départ, c'est une série de la DIC. Ce sont des petits nounours avec un cœur, un trait. Enfin, ils ont leurs émotions sur leur ventre et ils vivent dans un monde rempli d'arc-en-ciel et ils interviennent pour aider les humains à consoler leurs petits malheurs.
En tout cas, c'est marrant de se dire qu'à l'époque, qu'aujourd'hui tout le monde connaît les studios Pixar et compagnie, mais que en fait, ça devait pas être mis en avant forcément à l'époque, quoi, les studios DIC.
Il y avait peut-être pas non plus les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a une sortie cinéma, il y a tellement de choses qui se passent autour. McDonald's qui sort les figurines de Pixar.
C'est vrai. On n'était pas dans la même.
Et j'aurais tendance à dire, il y a que Pixar qui peut se le permettre aussi. C'est vrai qu'un studio français qui sort un beau film, même splendide, il n'aura pas les moyens. De Pixar pour le faire connaître auprès du grand public. Je ne sais pas, moi qui connais par exemple le studio qui a réalisé Kirikou. Un peu de personnes. Alors, il s'appelle Les Armateurs. Alors, c'est un studio qui s'est arrêté là. Et le producteur Didier Brunner fermé ce studio-là, mais par contre, il a ouvert une nouvelle maison. Alors, c'est plus des maisons de production que vraiment des studios. Après, la partie studio, elle se fait... alors, beaucoup en France, hein, quand même, on a des studios d'animation qui sont très, très dynamiques. Voilà, donc les armateurs, c'est devenu aujourd'hui, c'est Folivari, mais il y a toujours une production, ils ont toujours une production qui est importante, mais qu'on ne connaît pas, quoi. C'est pas, alors, je sais pas ce qu'on pourrait connaître, il y a Folimage à Valence, qui a fait, par exemple, Mia et le Migou, je cherche les titres.
Non mais c'est pas grave,
ça me revient pas.
Folimage.
Je suis un peu fatiguée, mais voilà, enfin c'est sont des, on a vraiment des studios français qui sont de grande qualité, mais bon, effectivement le grand public ne les connaît peu.
Et est-ce que la médiathèque nous réserve du coup d'autres surprises pour les prochains événements à venir?
Oui, bah, je parlais tout à l'heure du mois du film documentaire qui arrive tout de suite après, puisque c'est traditionnellement le mois de novembre qui est consacré au cinéma documentaire. Alors cette année, c'est un petit mois du film documentaire, parce qu'en fait, on s'est inclus dans une manifestation plus large proposée par les collègues qui en charge de la section livre autour du handicap et d'une valorisation en fait des personnes handicapées, notamment dans le monde du travail, c'est-à-dire tout ce qu'elles peuvent apporter à la société, alors que traditionnellement, on les perçoit plutôt comme des handicaps, justement. Quand on parle de handicap, c'est quelque chose qui dérange, qui gêne, alors qu'en fait, non, il y a moyen d'intégrer et de faire participer la personne handicapée à la construction de la société. Donc, on accueille une exposition de photographie sur cette thématique, et puis des projections. Voilà, donc il y aura documentaire et fiction aussi, un très beau film notamment... Avec Jacques Gamblin, De toutes nos forces, ça s'appelle.
On rappelle donc, dit que l'exposition se trouve à la médiathèque François Mitterrand depuis le 11 octobre et jusqu'au 5 novembre. On remercie Noël d'être responsable de la section cinéma, d'être venu nous en parler.
Mais merci à vous de m'avoir reçu.
Et avant de clôturer l'émission, on écoute le générique des Mystérieuses Cités d'Or.
Parfait.
Enfant du soleil.